Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que les États-Unis avaient une longueur d'avance sur nous concernant la possibilité de concevoir pour les familles homoparentales. Dès 1995 et la diffusion en France de la série Friends, le ton est donné. Le premier épisode intègre instantanément une famille homoparentale, celle de l'ex-femme de Ross avec sa compagne et leur fils commun. Et je crois me souvenir que cela m'avait paru hallucinant à l'époque, inconcevable en France. La liberté des couples homosexuels que je découvrais à ce moment-là dans les chroniques de San Francisco d'Amistad Maupin me faisait rêver et dessinait déjà mes rêves d'expatriation. Olivia et Camille sont allées au-delà de leurs rêves et ont concrétisé leur envie de nouveaux horizons à la faveur d'un stage de fin d'études. Elles ont découvert la Floride et l'ouverture d'esprit des Floridiens quant à l'avenir des familles homoparentales. Elles se sont projetées dans cette vie-là, et si finalement la loi fédérale sur la reconnaissance du deuxième parent n'est que très récente, la simplicité d'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas une légende. En couple, elles me racontent leur parcours, celui qui a vu la naissance de leur fils Evan, puis celui qui a vu naître leurs jumeaux, Adèle et Raphaël, 2 ans plus tard. On parle aussi business, parce que les États-Unis sont ce qu'ils sont. La liberté et le libéralisme ont un coût qui n'est pas neutre, et surtout qui nous ramène malgré tout à la réalité de nos parcours en Europe. Certes, nous devons nous rendre à l'étranger et nous devons payer notre PMA, mais c'est le cas ailleurs aussi, même si la clinique se trouve en bas de chez soi. Je vous laisse découvrir cet épisode qui va vous faire voyager et surtout découvrir une magnifique famille franco-américaine qui vit et profite de son rêve américain sous toutes ses coutures. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivia, bonjour Camille.
Bonjour Constance.
Bonjour Constance.
Je suis ravie de vous avoir à mon micro, ça fait un moment que j'essaye qu'on se rencontre, mais je sais que vous êtes débordée et c'est le lot des parents de multiples d'enfants en bas âge, on va dire.
Ouais, c'est vrai, on était bien occupés.
Et là, à la faveur des congés, on va dire, on arrive à se... ou des futurs congés à venir, on arrive à se capter. Aujourd'hui, on est très très loin, on n'est pas en France, on s'appelle à distance longue, donc vous êtes actuellement sur la ville de Miami où vous habitez. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement dans l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, sur votre famille et puis un petit peu me raconter le début de votre histoire ensemble?
Oui, bien sûr. Et moi, c'est Olivia, donc j'ai 30 ans. Donc avec Camille, on habite à Miami en Floride depuis 9 ans. On est ensemble depuis bientôt 10 ans et on est mariés depuis 6 ans, donc depuis 2014.
D'accord.
Donc moi, c'est Camille, j'ai 31 ans.
Donc, comme Olivia l'a dit, on est ensemble depuis 10 ans. Et donc, on est les mamans de Evan, qui a 2 ans et demi, et Adèle et Raphaël, des jumeaux qui viennent juste de fêter leurs 6 mois.
Ouais, donc des petits bouts de chou.
Voilà.
D'accord. Et donc, vous habitez à Miami, vous avez emménagé en fait à Miami quasiment dans la foulée de votre rencontre finalement.
C'est ça. Après 8 mois de rencontre, en fait, j'ai eu un stage de fin d'études à l'étranger. Et donc, c'est arrivé par hasard que c'était à Miami. Et donc, j'ai proposé à Olivia l'idée et on s'est lancé, on est parti. À la base, ça devait être pour 1 an. Et elle a accepté l'aventure et on est parti, puis on n'est jamais revenu.
D'accord, ok. Donc, c'est une super aventure. Et ça s'est concrétisé ce stage ils t'ont fait une proposition de poste derrière ou toi, tu as de toi-même cherché à rester sur place?
Non, le stage s'est concrétisé. En fait, ils m'ont proposé de rester. Bon, après, il y a toute une procédure de papier, c'est pour rester, qui est un peu compliqué.
C'est ça.
Donc, c'est ça qui est un peu mis en jeu, de savoir si on restait ou non. Mais on a réussi à s'en sortir à travers tout ça. Et donc on a pu rester toutes les deux, parce que le problème aussi, c'était que chacune de notre côté, on devait avoir les papiers. Et donc, toutes les deux de notre côté, on a réussi à rester. Et ça a pu se prolonger grâce au mariage qui est passé en France et aux États-Unis presque juste quelques mois après. Et c'était vraiment une belle surprise ici parce que c'était pas du tout prévu. Et donc le fait que le mariage soit reconnu ici aussi, Olivia, qui avait plus de difficultés à avoir des papiers, a pu se greffer à moi, qui avait déjà un job. Et donc du coup, ça nous a permis de continuer ensemble plus facilement.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a une histoire de visa, et le visa, concrètement, tu l'obtiens, c'est individuel, c'est pas le couple qui obtient le visa.
Ah donc bon. Si tu es marié, en fait, voilà.
Oui, d'accord. Et c'est lié au fait que tu aies ou non un emploi, on est bien d'accord, puisque...
Il y a plusieurs types de visas, mais moi, c'était avec mon employeur.
D'accord. Et du coup, Camille a pu trouver du boulot dans la foulée?
Alors c'est moi Camille qui avait le boulot.
C'est toi Camille qui avait le boulot, excuse-moi. C'est pas facile sans voir les gens.
C'est moi Camille qui avait le boulot et donc qui a pu être sponsorisée, on appelle ça sponsorisée ici par mon employeur. Et donc du coup grâce à ça on a eu toutes les deux les papiers et Olivia a trouvé du travail dans la foulée. Oui.
D'accord, ok. Donc toutes les deux, alors on n'est pas sûr des CDI hein, puisque là-bas ça fonctionne pas comme
bon.
Ça. Mais...
Non, non. Bon, il n'y a pas de contrat, on a été embauchés on va dire.
Voilà, c'est ça. Et c'est freestyle.
Voilà, exactement. Et on a eu la chance de tomber dans une entreprise française au début. Et puis voilà, maintenant, on est parti sur d'autres jobs, mais ça a commencé comme ça.
D'accord. Donc, du coup, sur des entreprises françaises au départ. Ok.
Oui, oui.
Ok. Et du coup, donc 9 ans que vous êtes sur Miami, vous avez à aucun moment eu l'envie ou l'idée de changer?
On a un peu l'envie, on n'a pas beaucoup non plus malheureusement exploré le reste des États-Unis. Miami, parce que c'est pas si loin de là quand on est aux États-Unis. Le décalage aussi horaire est de 6 heures seulement. On avait l'envie un peu peut-être de bouger en Californie, mais après c'est 9 heures de décalage. Donc ça rend les choses encore plus difficiles, je trouve, par rapport à notre famille qui est en France. Pour l'instant, Miami, franchement, on s'y plaît plutôt bien. Aussi du côté LGBT. Au tout début, on a vécu pendant plusieurs années sur Miami Beach et c'est vraiment très LGBT.
D'accord.
Donc, voilà, ça, c'est ça aussi qui a fait qu'on s'y est senti mieux qu'à Paris en fait. Tout de suite, c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de rester aussi. Le fait de se sentir, d'être nous-mêmes en fait, sans se sentir jugé dans notre vie de tous les jours. Donc, il y a d'agression ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui nous a aussi. Beaucoup donné l'envie de rester à Miami.
Oui, c'est vrai qu'on a plutôt notion de la partie côte ouest pour tout ce qui est liberté LGBT, on va dire. Mm-hmm. Mais la côte est, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose dont on entend parler.
C'est vrai, ça l'est quand même pour les grandes villes comme New York et Miami, et particulièrement Miami Beach. Donc, il y a une ville dans Miami, c'est le côté plage, en fait, tout simplement, et fête. Ça allait pour ces deux grosses villes-là, en fait, ouais.
D'accord. C'est pas le cas partout en Floride, mais Miami Beach, oui.
Voilà, exactement.
D'accord, ok. Et donc, alors, on est allé un peu vite, mais vous ne m'avez pas raconté votre rencontre. C'est quand même la base. Est-ce que vous pouvez me la raconter?
Bien sûr, on s'est rencontrés, en fait, en 2011, via une amie en commun, pour moi, c'était le coup de foot tout de suite.
Je peux corriger, c'était en 2010.
En 2010, pardon.
Super.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'était fin 2010, pardon. En novembre. Et donc voilà, par une amie en commun. Et on a très vite emménagé ensemble, en fait. Moi, ma situation aussi. Et, on venait de région parisienne, juste pour vous situer. Et très, très vite, on a déjà emménagé ensemble avant même de partir à Miami. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas quitté depuis notre rencontre, en fait.
D'accord, c'est beau. Bon, après, envisager une expatriation sur un tout jeune couple, c'est un peu qui tout double quand même. Enfin, vous avez pris un risque.
Ouais, c'est vrai. Déjà, le fait qu'on habitait ensemble, ça nous a forcément rapprochés. On était vraiment très, très fusionnels depuis le début. C'est vrai que c'était qui tout double, mais vraiment, pour le coup, nous, ça nous a fusionnés encore plus. Je crois que j'aurais pas pu le faire sans elle, honnêtement. Même si mon rêve, c'était de venir aux États-Unis, c'est vraiment notre Camille, c'est notre détermination, je pense, en couple, quoi, qui nous a permis de rester ici.
Ouais, d'y arriver en fait.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile. Hein. On croit que c'est facile de venir ici, mais c'est pas le cas.
Ouais. Malgré le fait que vous soyez sponsorisé, enfin que toi tu sois sponsorisé par ton entreprise, c'était compliqué.
Bah oui, en fait, donc moi j'étais en sponsorisé, mais il faut savoir que donc on a mis 7 ans à avoir la carte verte. Donc c'est au bout de 7 ans, on a la carte verte, on peut s'estimer entre guillemets. Soulagée parce que du coup on n'a plus de problème de renouvellement de visa tous les ans voire tous les 2 ans et donc du coup maintenant on a 10 ans devant nous et on peut dans 5 ans devenir américaine, avoir la citoyenneté américaine.
Ah oui, d'accord. Et ça, c'est votre objectif initial? Alors, ou pas du tout, ça s'est fait au fur et à mesure?
Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, même si on avait l'envie de rester sur le long terme, mais encore plus maintenant qu'on a nos petits bouts parce que eux ont la double nationalité. Et ça nous paraît évident de l'avoir également, même si on veut peut-être rentrer en France plus tard, on veut pouvoir revenir ici si jamais l'un d'eux ou tous souhaite rester aux États-Unis, parce que sinon on n'aura pas l'opportunité de pouvoir revenir sur du long terme, les rejoindre si besoin, etc.
Donc, d'accord. Parce que la carte verte est définitive, mais si tu rentres en France, tu perds cette carte verte?
Oui, en fait, la carte verte, c'est pour 10 ans, mais à condition de rester au moins 6 mois par an aux États-Unis. Donc, pas 6 mois par an, on perd la carte verte. Donc, en fait, il n'y a vraiment que la citoyenneté qui nous permettrait de changer de pays ou de revenir en France, que ce soit 6 mois ou plus, et de pouvoir revenir aux États-Unis quand on veut, sans problème.
D'accord. Et alors, du coup, dans ce contexte donc américain et d'expatriation, vous avez envisagé la parentalité assez rapidement, finalement, aussi?
Oui, en fait, moi j'ai toujours eu l'envie déjà personnellement d'avoir des enfants, sans même connaître mon homosexualité ou même quand je l'ai su après, je veux dire, c'était quelque chose, je savais pas.
C'était inné.
Voilà, c'était inné. Je voyais pas ma vie sans enfants. Donc après, pour Camille, c'était quelque chose aussi qu'elle avait en tête, mais elle était plus encore dans ses études, elle venait de les terminer. C'était moins. Oui, pour toi, c'était quelque chose.
Je savais que j'allais avoir des enfants, mais je ne savais pas trop quand ni comment. Bon, je savais que j'allais avoir des enfants. C'était pas trop pressé.
Ouais, voilà. Après, c'est vrai que, notamment quand on ne connaît pas sa sexualité, on n'envisage pas le comment on va faire les enfants. Enfin, ça paraît assez évident au premier abord. Je suppose que quand vous avez découvert votre homosexualité et puis construit votre couple, vous avez dû y réfléchir de façon plus concrète.
Oui, tout à fait. On a commencé à y réfléchir et en fait, on a eu la chance ici, quand on était à Miami Beach, on est tombé sur une conférence qui se faisait juste à côté de chez nous et c'était pour les LGBT, pour nous orienter comment avoir des enfants, quels sont les paramètres légaux, tout ce qu'il faut, par quoi il faut passer pour pouvoir avoir un enfant et comment faire. Donc on a participé à cette conférence et donc cette conférence, elle nous a bien aidé à ouvrir les yeux et avoir une idée plus précise de comment on allait faire et quand est-ce qu'on allait commencer.
Et alors du coup, quel est le contexte justement aux États-Unis? Donc là, on est en 2000 combien? Vous avez commencé à réfléchir à ça?
En fait, en 2014, en fait, un peu après notre mariage. D'accord. C'est là qu'on a assisté à la conférence et que du coup on s'est encore plus intéressé au sujet. En fait, ici c'est assez simple, c'est pas récent du tout pour les couples LGBT d'avoir accès à la PMA, en fait, tout simplement. Donc, ça n'a pas été, ça n'a pas été un tabou avec personne, d'ailleurs, au niveau légal ou même, je veux dire, après, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. D'ailleurs, ça n'a jamais été un tabou ou un problème ici. Tout le monde y a accès assez facilement.
Oui, c'est acquis.
Exactement, ouais.
Et du coup, alors, effectivement, on entend, hein, enfin, j'ai même envie de dire, alors évidemment, nous, Français, on se base sur quoi ? Sur les séries américaines qu'on a l'habitude de voir, hein, soyons clairs. Donc, la parentalité LGBT, rien qu'avec Friends, elle était abordée, donc dès 95, ouais. J'ai envie de dire, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est pas, pour nous, c'est assez évident qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est pas le cas ? Comment ça se passe ?
Oui, en fait, ouais, je trouve que, par rapport par exemple, au podcast que j'ai pu écouter et que tu as enregistré auparavant, je me rends compte qu'ici, on a vraiment la chance. Alors, c'est coûteux, évidemment, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir l'opportunité de la PMA, en fait.
On a tout à disposition. Ouais. On ne sait pas exactement comment ça se passe en Belgique, par exemple, ou en Espagne, mais en tout cas, ici, on a vraiment toutes les portes ouvertes. Nous, on était un peu dans le flou, donc avant cette conférence qui nous a très bien dirigée. Et donc, en fait, tout simplement, notre première étape, c'était de prendre rendez-vous avec ce qu'ils appellent ici un endocrinologue spécialisé en reproduction. Et donc, une fois le premier rendez-vous pris, bon, il nous a plus expliqué en détail comment ça allait se passer, mais ça a vraiment été pour lui aucune surprise d'accueillir un couple homosexuel. On n'a jamais, que ce soit même chez un gynéco lambda, on n'a jamais été regardé bizarrement ou questionné. Et à l'hôpital, pareil, on n'a jamais eu de questions là-dessus. On nous a toujours compris tout de suite qu'on était deux mamans et pas de questions posées et toujours bien, aussi bien traité que quelqu'un d'autre.
D'accord. Et est-ce que vous deviez être marié pour avoir accès à la PMA aux US ou pas ?
Non, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui demande, en fait.
Bon, après, c'est logique.
Si possible, on connaît aussi des mamans solo, en fait, qui ont juste envie d'avoir des enfants et pas de partenaire, tout simplement. Donc, elles font des enfants toutes seules, en fait.
D'accord, oui, donc c'est ouvert aussi aux femmes seules.
Exactement, oui, ça l'est aussi.
D'accord. Et alors, bah, du coup, quel choix vous avez fait à ce moment-là, au moment de la conférence ? Enfin, je suppose que vous n'avez pas tout de suite décidé de vous lancer, mais vous m'avez dit que vous aviez déjà envisagé le camp. Donc, quel a été votre cheminement ?
Alors, en fait, donc après cette conférence, moi, j'étais super prête pour
à fond.
Ouais, complètement. En plus, pendant la conférence, c'est assez marrant, une petite anecdote, mais Camille a eu la chance de gagner donc ce que vous appelez, je crois, les paillettes. En fait, voilà, une fiole de sperme, on appelle ça comme ça ici. Avec ça, j'étais vraiment genre, il faut commencer tout de suite.
C'est génial, ça.
Donc, bon, malheureusement, on n'a pas commencé tout de suite parce que, en fait, tout simplement, Camille a commencé des études pour être expert comptable aux États-Unis. On en avait pour 3 ans. Forcément, elle n'avait pas la tête à ça. On savait que ça serait compliqué, donc on a décidé d'attendre. En attendant, j'ai continué à regarder. Nous, on a accès, pour les donneurs, on a en fait accès aux banques de sperme, ça s'appelle comme ça, en ligne. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu et voilà, à voir comment ça se présentait pour choisir un donneur, quel type de donneur on avait, la possibilité de choisir. Et puis, ça a commencé comme ça. Ensuite, c'est en 2016, je crois, que là, vraiment, on a commencé à prendre nos rendez-vous tout début 2016. On s'est senti prête, surtout Camille, en fait, parce que moi, j'étais toujours prête.
Ça n'avait pas changé.
Voilà. Donc, on se sentait prête aussi financièrement, parce qu'on s'imaginait bien, évidemment, que le coût ici... connaissant enfin les assurances qui couvrent pas comme en France, c'est assez différent. Enfin, je sais qu'en France c'est pas couvert pour les couples LGBT, mais on peut dire l'assurance même classique couvre pas grand chose ici. Donc on savait que devant nous on avait forcément à avoir un gros coût pour réaliser notre PMA, en fait.
Et au niveau du choix de la clinique, est-ce que c'est, en gros, est-ce que tu descends en bas de ta rue, tu fais 3 pâtés de maison et tu pousses une porte de clinique et vous avez accès à n'importe quelle clinique, est-ce que c'est aussi libre que ça
Oui, c'est comme ça.
Alors, c'est dingue.
Nous, on s'est dirigé vers la première clinique, en fait, simplement après avoir assisté à la conférence en 2014. On avait pris les coordonnées de cette première clinique à Miami. Donc, on a fait notre premier rendez-vous là-bas. Une première série de tests dès le premier rendez-vous, en fait. Et puis, on a eu connaissance des prix, des tests, le cheminement, les tests qu'il fallait faire aussi. On n'a pas eu le feeling avec cette clinique-là. Donc, en fait, tout simplement, on a fait la recherche pour une autre. On a comparé les prix aussi, parce qu'on a vu que c'était un peu coûteux. Donc, on a choisi finalement une autre clinique sur Miami. Et c'était vraiment très simple. Il suffit juste d'un rendez-vous. C'est très facile à trouver ici.
D'accord. Et alors, ça m'intrigue, cette histoire de Camille qui a gagné des paillettes. En fait, ils font des concours pendant les conférences.
Alors oui, en fait.
Des tombolas.
Oui, en fait, durant cette conférence, à l'entrée, il fallait mettre un petit ticket avec son nom. Et à la fin de la conférence, il y a une personne qui était tirée au sort et c'est tombé sur moi. J'étais d'ailleurs très gênée de dire, je dois vraiment y aller. Et donc, c'était quand même un beau cadeau. Ça coûte quand même $900, une fiole. Donc,
c'est clair.
On va pas dire non. Donc voilà, on l'a accepté. Et en fait, on n'était pas prête à ce moment-là à commencer. Donc, j'avais peur qu'ils nous disent « Vous avez un an pour l'utiliser, etc. » Et en fait, ils ont été compréhensifs. Ils nous ont dit « Quand vous êtes prêts, on reste en contact et vous pouvez nous contacter quand vous êtes prêtes. »
Génial.
Ouais. Donc, du coup, on est passé par cette banque de sperme. Du coup, c'était une banque de sperme en particulier qui nous avait offert cette fiole.
C'était une banque qui sponsorisait quelque chose comme
Ça. C'est une banque qui sponsorisait l'événement. Et donc, du coup, on est passé par celle-ci, mais ça ne nous dérangeait en rien parce que c'est California Cryobank, elle s'appelle, et c'est l'une des plus grandes banques de sperme aux États-Unis. Donc, on avait complètement 100% confiance en cette banque. Oui.
D'accord, ok. C'est marrant. Franchement, je trouve ça génial. Mais ça prouve que c'est complètement libéré. Moi, je trouve ça génial.
Non, c'est vrai que c'est chouette. Et donc, à cette conférence... pour info, il y avait le côté légal avec une avocate qui expliquait les droits des parents LGBT. Donc, il y avait cette banque de sperme aussi qui représentait et expliquait les différents choix qu'on avait, que ce ferait à nous, avec les UI, etc. L'insémination intra-utérine, en français. et puis, des médecins, etc., qui participaient. Donc, c'était bien encadré, bien tout.
D'accord. Et alors, ce parcours, il se passe comment pour vous? Parce que vous avez donc fait le choix en fin de votre clinique en comparant notamment les devis. D'ailleurs, est-ce que au niveau budget, vous pouvez nous parler un petit peu du coût aux États-Unis? Parce que nous, on se plaint, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est juste démentiel.
Oui, exactement, c'est rien à voir en fait. Par exemple, juste le premier rendez-vous, ça coûte 300-400 $. J'ai plus le chiffre exact, mais juste le premier rendez-vous avec le médecin, c'est environ 400 $. Donc ça c'est juste pour dire ce que tu veux faire et lui qui te dise un peu comment ça se passe le processus. Donc on n'a rien commencé et ensuite donc il nous dit tous les tests, tous les diagnostics qu'on doit faire avant de commencer le processus, donc les prises de sang pour voir les maladies génétiques, les vitamines, pour voir le je sais pas comment on appelle ça, pour voir la qualité des œufs, j'ai oublié le nom. Et le sonohystérogramme et le hystérosalpinogramme. Donc, on a accès à tout ça. Et bien sûr, on repart avec la liste des prix pour tout. Ça paraît bête, mais c'est très important pour nous parce que, par exemple, juste pour faire tous ces tests-là sans commencer l'IUI, il faut compter autour de 2 500 $.
Ouais, d'accord.
Et donc, d'ailleurs, on avait discuté avec le médecin en lui disant on n'avait pas des ressources illimitées. Et donc, est-ce qu'il y avait des tests qu'on pouvait éviter plus que d'autres? Et il nous avait dit que pour Olivia, qui avait l'air jeune et qui ne montrait aucun signe d'infertilité, on pouvait passer à côté de l'hystérosalpinogramme. Donc, qu'on n'a pas fait au début. Et après ces tests, le cycle arrivant, on a pu commencer.
D'accord. Et alors, vous avez fait le choix de qui pour porter le premier?
Alors, moi, Olivia, parce que j'étais prête de toute façon. J'étais vraiment...
Oui, tu étais plus que prête.
Exactement. Et puis, Camille étudiait toujours à ce moment-là, en fait. Elle avait... était toujours dans... Elle travaillait à temps plein et en même temps étudiait. Donc, c'était vraiment impossible qu'elle porte. Et puis, moi, j'avais toujours eu envie. Enfin, il n'y avait vraiment aucune question sur qui commençait à porter le premier enfant dans le couple.
D'accord. Oui, c'était évident par rapport à votre avancée dans votre vie,
Exactement.
D'accord.
C'était déjà bien défini depuis le début du parcours.
Oui, ça avait l'air de toute manière, effectivement. Et alors, ce docteur, il vous fait des propositions, en fait, de techniques, ou c'est une évidence de commencer par l'insémination ou peut-être par la FIV? Comment ça se passe?
Oui, voilà. Il nous explique ce qui est possible. Par rapport, moi, à mon profil, voilà, j'avais 26 ans. Pour lui, c'était clair que ça serait une insémination classique. Et puis bon, si besoin, évidemment, il avait évoqué la FIV, mais pour lui c'était une évidence qu'on allait commencer par une insémination classique, voilà. Même si on avait les choix, il y avait les prix, etc. Et puis bon, ils ont évidemment tendance à nous faire choisir ce qui est le plus cher normalement, mais
forcément,
voilà, ça reste quand même le business ici en premier.
C'est ça.
Oui, en fait, il nous explique qu'au bout de 3 et 8, il est conseillé de passer à la FIV parce que bon, il estime que nos chances, elles sont entre guillemets passées. Si on n'a pas réussi une des 3 et 8, que la FIV nous donnera plus de chances. Donc, c'est comme ça qu'il nous prépare. Et j'ai trouvé personnellement qu'à chaque rendez-vous, il insistait un peu beaucoup sur la FIV. Et moi, c'est quelque chose auquel je voulais avoir recours au début, bah, déjà vu pour le coût que c'est. Et puis, c'est pas du tout le même procédé. On voulait d'abord essayer de manière la plus simple le possible. Et surtout que bah, c'était facile d'accès ici. Donc, on voulait vraiment le faire.
Et ils imposent la stimulation ou pas aux États-Unis?
Alors, moi, j'ai trouvé qu'en fait, on avait même pas.
C'était pas imposé, on pouvait dire non, mais ils nous ont pas vraiment laissé le choix.
Voilà, exactement.
On n'est pas médecin.
Voilà. On n'avait aucune, on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là, etc. On a juste décidé d'écouter le médecin, en fait, tout simplement. Et, et donc, on s'est dit, bon, bah, on va mettre toutes les chances de notre côté et on va le faire, voilà, avec recours aux médicaments classiques.
Tels qu'ils nous disent.
De stimulation qu'ils nous proposent.
Ouais, qui eux aussi ont un coût, puisque déjà en France ça a un coût, alors j'imagine bien qu'aux États-Unis.
Je sais pas comment ça se passe en France aussi, j'ai pensé, mais effectivement nous aussi on paye tout de notre poche en fait, hein, y a aucun remboursement évidemment.
Et puis en fait à chaque fois on y allait un petit peu à l'aveugle là-dessus sur les médicaments parce qu'on savait jamais vraiment le coût à l'avance. Donc à chaque fois qu'on allait à la pharmacie c'était la surprise, genre combien ça va nous coûter cette fois-ci, et bon bah. Bon. De toute façon, on devait accepter, on n'avait pas le choix.
Oui, une fois que c'est lancé dans le processus.
On allait y aller.
Ouais. Vous n'avez pas eu trop de mauvaises surprises ou si?
Financièrement ou... si, quand même, ouais. Fois où on ne s'attendait pas. Je veux dire, quand ils nous font faire des tests de grossesse pour vérifier que je ne suis pas enceinte avant de commencer, il y a un coût à chaque fois à la prise de sang. Je me dis que ce genre de choses, on pourrait les éviter, quoi.
Ouais. Au début, ils font faire un test de grossesse, ça paraît rien, mais ça coûte 90$. Sauf qu'après, ils font aussi un test pour vérifier les hormones, ça coûte aussi 90$. Ensuite, ils font une échographie qui coûte 300$. Enfin, bref, ça va vite. En honnêteté, pour chaque rendez-vous, on en avait environ pour 500$ à chaque fois. Ça allait assez vite.
Et beaucoup de rendez-vous aussi.
Et beaucoup de rendez-vous. Donc, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici ou à l'étranger. Ici, on a un rendez-vous au jour 3 du cycle. Pour commencer le cycle. Et donc là, ils nous font des prises de sang et un ultrason. Ils appellent ça ultrason ici, je crois que c'est échographie l'équivalent. Et
oui, c'est échographie en France.
Et à partir de là, ils nous font commencer donc, les médicaments. Après, ce n'était pas un traitement de cheval non plus, c'était des doses. Juste, c'était pour avoir un seul follicle ou voire deux, mais ils ne nous incitaient pas à en avoir plus du tout. Et après, on avait rendez-vous, il me semble, au 12e jour du cycle pour voir la taille des follicules, voir si ils maturaient correctement. Et ensuite, on avait un autre rendez-vous le 13e ou 14e jour. Et après, ils nous disaient si on devait déclencher l'ovulation avec l'ovidrel ou non. Et on devait quand même faire des tests d'ovulation tous les jours, voir si Olivia n'ovulait pas avant de déclencher avec la piqûre.
C'est à peu près pareil, en tout cas moi sur le parcours que j'ai eu, c'était ça à peu près au niveau des rendez-vous et du suivi. Seulement, moi j'avais pas de test d'ovulation à faire. Alors après, je sais que tout est propre à chaque clinique, mais voilà, c'est à peu près ça.
Okay. C'était des tests classiques, hein, c'était test à la maison, mais on le faisait juste simplement pour vérifier qu'il n'y avait pas déjà eu d'ovulation avant de déclencher, quoi, de ne pas avoir raté.
Oui, évidemment.
Et donc, c'était aussi avec le médicament, donc...
Oui, pour pas tirer à blanc non plus.
Exactement.
Et alors, vu le coût et vu la rigueur du parcours, on va dire, est-ce que vous avez la chance que ça fonctionne rapidement ou pas ?
Et non.
On n'a pas parlé du choix du donneur qui était important.
C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Revenons-en au choix du donneur, on parlera après du nombre d'essais. Oui, du coup, le choix du donneur, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, vous avez, surtout Olivia qui avait eu accès, enfin, vous l'aviez tous les deux, oui. Hein, mais Olivia, a priori, avait fait des recherches importantes sur la banque de sperme. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe
alors,
d'ailleurs
nous,
aux États-Unis ?
En fait, aux États-Unis, donc, on a accès donc, au site de la banque de sperme et en fait, on a accès donc, au profil des donneurs. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. On a des donneurs qui sont 100% anonymes. Mmh. Et puis des donneurs qui sont open.
Ils appellent ça open donneurs. En fait, c'est des donneurs qui ont pour obligation, à l'âge des 18 ans de l'enfant qui a été conçu, si l'enfant il souhaite le contacter, il doit répondre au minimum une seule fois. Donc, s'il a envie de dire je n'ai pas envie d'être en contact, il peut le dire. Et puis s'il a envie d'être en contact, ils peuvent après rentrer en contact le donneur et l'enfant.
D'accord.
Donc on était sur ce site et c'est un catalogue, hein, on choisit vraiment comme dans un catalogue. La seule chose, c'est que à l'époque où nous on l'a fait, il y avait que des photos des donneurs enfants, ce qui nous suffisait complètement. Mais maintenant ils donnent aussi des photos de eux adultes, ce qui est un peu, on trouve ça un peu bizarre, mais bon, chacun.
C'est à moins d'anonymat.
C'est ça. Chacun fait comme il le souhaite. Donc nous, c'était que des photos de lui enfant. Et après, on avait vraiment tous les détails sur lui et sur sa famille, plus que parfois son propre conjoint, je crois. Et, donc on avait tout l'historique de ses maladies, toutes les caractéristiques physiques de toute sa famille. Et c'était bon, assez rigolo au début de voir ça. On a même un enregistrement audio pour entendre sa voix.
D'accord.
Et donc on a fait notre choix comme ça. C'est assez rigolo.
D'accord. Ça a été compliqué ou pas comme choix ? Enfin, vous avez vite statué ?
En fait, oui, on a eu un... Enfin, moi, j'ai regardé pendant longtemps sur le site. J'en avais sélectionné quelques-uns qui me plaisaient. Nous, notre critère en particulier, c'était surtout le fait qu'il ait un rapport médical qui soit clean, quoi, qu'il n'ait pas de maladie dans sa famille, etc. Même si c'est pas... Enfin, il sélectionnait donneur, évidemment, avec ça. Mais voilà, on ne voulait pas de... On voulait que ça le plus... Le plus simple possible.
Le plus simple possible, voilà. Ouais.
Donc c'était notre critère de choix, en fait, pour sélectionner. Donc, j'en avais sélectionné quelques-uns. Et en fait, tout simplement, Camille, un jour, se met sur le site et elle tombe sur un donneur qui venait juste d'être ajouté. Et elle m'en fait part. Et en fait, c'était vraiment le coup de cœur. Il nous ressemblait vraiment beaucoup de par son parcours professionnel, etc. Et vraiment, il ressemblait beaucoup à toutes les deux. Donc, on a accroché vraiment avec celui-là.
D'accord. Et donc là, vous avez pu bénéficier de vos fameuses paillettes offertes.
Exactement, mais on nous avait aussi prévenu durant cette conférence un détail hyper important auquel on n'avait pas forcément pensé ou on n'aurait pas pensé, c'était qu'au moment de l'achat des paillettes, il fallait en acheter plusieurs si on voulait avoir plusieurs enfants du même donneur parce que les donneurs, ils partent hyper vite. Par exemple, le donneur, en un mois, il n'y en avait plus et il n'en a jamais redonné, donc on a été hyper contents d'avoir eu ce conseil parce que du coup, on a pu en acheter beaucoup d'un coup, c'est sûr. Il fallait le budget parce que, comme on l'a dit, c'était 900 $ la fiole. Et on en a acheté 15. Donc,
Ah oui, 15. Ouais. Et une fiole, c'est un essai, c'est ça ?
Oui, une fiole, c'est un essai.
D'accord. Ah oui, non, mais ça fait un budget énorme.
On avait acheté 10 au début et quand on a vu... que ça allait être compliqué, on s'est dit on préfère mettre plus de chances de notre côté, on pensait avoir 2-3 enfants, donc on s'est dit on va en acheter 15 pour être sûr d'avoir au moins 2-3 enfants du même donneur.
D'accord, donc pour vous c'était important que le donneur de tous vos enfants soit le même.
On n'y avait pas pensé au premier abord, mais en fait après pour nous c'est devenu un point important, si on pouvait le faire, on le ferait.
Étant donné en plus qu'on avait vraiment eu un coup de cœur pour ce donneur là, c'est surtout ça aussi qui a fait qu'on s'est dit voilà, on voulait qu'ils soient tous du même donneur si possible, effectivement.
D'accord. Et alors, anonyme ou semi-anonyme ce donneur ?
Alors, il est semi-anonyme et ça nous convient plutôt bien, en fait. Nous, on est... je veux dire, quand les enfants sont majeurs, s'ils ont l'opportunité de poser leurs questions, ça nous va très bien aussi, quoi.
Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'avec le recul, tu vois, je me dis que nous, on aurait sûrement fait ce choix-là. Maintenant, à l'époque, on était mal informés et le choix qu'on a fait nous convient bien aussi.
Mais c'est pareil, en fait, nous, on voulait absolument qu'il soit anonyme au début. Puis quand on a vu cette option, en fait, il est arrivé que ce donneur-là était semi-anonyme et c'était un hasard, on ne l'avait pas choisi pour ça. Et en fait, après coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, en fait, ça nous laisse l'option et on est contente de l'avoir.
Oui, complètement. Je comprends complètement. Et donc, ce parcours est compliqué?
Alors, oui, un peu compliqué. Donc c'était donc en 2016, c'est là qu'on a commencé. Donc, après les tests qu'on doit faire donc, au préalable avant de commencer le parcours, on a fait notre premier essai au mois de juillet 2016. Donc, c'était, je ne sais pas si vous utilisez la même chose en Europe, mais nous, donc, on utilisait le Femara pour stimuler, etc.
Ce n'est pas les mêmes, je crois.
Il y en a plusieurs, en fait, mais... C'était recommandé par le docteur. Et,
d'accord.
Donc voilà, donc on a commencé comme ça. Et en fait, ce cycle-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Semblerait que je n'ovulais pas, qu'il n'y avait aucun follicule mature. Donc finalement, ça a commencé par un peu un échec. Donc on n'a rien pu faire. Il a dit que le docteur a conseillé tout simplement qu'on arrêtait les médicaments et puis qu'on attendait le cycle suivant. Donc, un peu déçue.
Bah oui, forcément.
Surtout, voilà, j'étais vraiment très excitée de commencer. Je pense que c'est ça qui a joué, hein, honnêtement. Ce stress, cette pression que je mettais déjà. Donc voilà.
Oui, et puis la stimulation, c'est pas anodin pour nos corps. Donc, oui, ça peut aussi jouer.
C'est vrai. Finalement, avec le recul, je crois que si on m'était mieux renseigné, on aurait peut-être pas fait avec les médicaments. Je pense que, on aurait peut-être commencé de façon classique. Donc après notre second essai, c'était donc le cycle d'après. On a la chance, c'est assez rapide ici, on peut faire des essais tous les mois. Donc au mois d'août, c'est notre première vraie insémination, puisque ce cycle avait fonctionné, un follicule mature. Donc voilà, on fait l'insémination, donc on attend les 14 jours, je pense que c'est pareil en Europe, pour avoir la prise de sang, et ben, elle était négative, donc notre... second échec, premier vrai échec, on va dire. Donc, on m'a évidemment déçu. On recommence le cycle d'après, donc au mois de septembre. Et donc, toujours avec le même médicament, mais on augmente les doses, en fait, pour donner plus de chance. À côté de ça, ils me donnent d'autres choses, des patchs pour augmenter la taille de l'endomètre, hein, pour mettre toutes les choses de notre côté, en fait. Donc, au mois de septembre, même chose. Et puis, encore négatif, mais encore un échec, donc ça commençait à être dur à encaisser. On a la chance qu'on n'ait pas besoin de voyager, que c'était sur Miami, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec l'Europe, honnêtement. On pouvait commencer assez rapidement, refaire des tests, tous les cycles le mois suivant, etc. C'était assez simple de faire. Ouais. Ce qui n'est pas évident, évidemment, en Europe. Donc pour ça, on avait la chance. Donc on continue sur le prochain cycle le mois d'après, donc ce qui nous amène en octobre. Là, on change de médicament sur un autre qui est à peu près semblable, mais ça s'appelle Clomid, je ne sais pas si...
Oui, ça existe en France.
On est passé à Clomid. J'ai une bonne réaction à ce médicament-là, ça s'est bien passé. J'avais deux follicules matures, donc... super contente pour ce cycle. Et encore une fois, on attend les 14 jours, évidemment. Et à nouveau, un échec. Donc ça a commencé à faire mal. Moi, je recevais les appels de la clinique directement donc quand les résultats étaient disponibles. Donc, j'avais la lourde tâche d'appeler Camille après. Donc, évidemment, je pleurais entre les appels.
Ben oui, forcément.
Voilà, je m'en voulais énormément, mais malheureusement, pas faire grand-chose. C'est juste ma nature.
Non, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la culpabilité est énorme à ce moment-là.
Honnêtement, ouais, j'ai l'impression que toute la faute était sur moi. C'était vraiment difficile. À côté de ça, Camille était très rassurante. Elle essaie de relativiser, etc. Mais c'était vraiment dur à encaisser.
Oui.
Donc, tout ça nous amène au mois de novembre. Camille décide qu'on arrêtait là avec les inséminations. Le médecin aussi se disait bon, au bout de trois fois, comme il l'avait prévenu, on allait voir d'autres possibilités. Donc évidemment, il revient sur le sujet de la FIV. Donc on se dit, on y réfléchit 2 minutes, mais on sait que c'est assez coûteux. Donc on décide de, tout simplement de faire d'autres tests. Donc comme Camille avait évoqué tout à l'heure, on était passé à côté de l'hystérosalpingographie.
Salpingographie. Ouais.
Donc ils nous recommandent de la faire. Donc faisons-la maintenant. Donc effectivement, j'avais une des trompes qui était partiellement bouchée. Enfin, elle n'était pas en terrible état. Donc ça n'aidait pas forcément à toutes les inséminations qui sont passées avant. Et évidemment, sur les 3 inséminations que j'avais faites, il y en avait 2 qui étaient donc dans la trompe qui est un peu abîmée. Donc forcément, ça n'aidait pas non. À côté de ça, il m'a aussi fait des tests pour vérifier si je n'avais pas de l'endométriose. Bon, honnêtement, tous les tests n'étaient pas très concluants. C'était assez vague et même il n'y avait pas de vraies réponses. Mais bon, il donnait son feu vert quand même pour continuer et refaire des inséminations. Moi, forcément, j'étais toujours prête. Et puis, dans ces moments-là, on devient complètement obsédé par l'envie d'avoir cet enfant encore plus qu'avant. C'est pour moi notre unique but, en fait.
Projet.
Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était je pensais qu'à ça, quoi, vraiment. Puis avec toutes les hormones, etc., c'est assez prenant. Ouais. En décembre, on refait une insémination classique. Donc, on appelle ça UI. On repart sur le chlomide qu'ils avaient décidé de m'augmenter. En fait, je me suis un peu trompée dans les dosages. Je n'ai pas pris les bons cachets à ce moment-là. Donc, évidemment, je m'en veux encore plus. Mais bon, j'avais quand même un follicule qui était mature. Donc, c'était OK pour faire l'insémination. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, j'étais quand même à fond. Notre 4e échec au mois de décembre. Donc là, oui, ça commençait à peser énormément, même pour notre couple, je veux dire, c'était...
Oui, bien sûr.
Ça commençait à être dur pour tout le monde, en fait. Je ne sais pas comment Camille a fait pour me supporter. C'était difficile.
Après, c'est clair que là, tu as tout qui joue, quoi. Tu as la culpabilité, les hormones, l'espoir ou le désespoir d'avoir cet enfant. C'est compliqué.
Donc voilà le parcours au niveau IUI. Donc forcément, on se dit, c'est peut-être le moment, étant donné que notre budget commence à se resserrer un peu, de penser à la FIV et de mettre toutes les choses de notre côté. Donc on s'était dit que c'était ça, ou peut-être faire des IUI, mais on ne pouvait pas continuer non plus trop longtemps. Donc là, au mois de janvier donc 2017, on prend rendez-vous avec notre docteur pour voir comment allait se passer une FIV. Donc, et tout ce qui est engendré à côté au niveau des traitements.
Il faut noter que dans tout ce parcours, en fait, on a vu le docteur très peu. On a vu le premier rendez-vous, on l'a vu avant de commencer le premier EUI, puis après, ensuite, on ne l'a plus jamais revu jusqu'à après nos 3 échecs, où là, on a demandé un nouveau rendez-vous avec lui, parce qu'en fait, à chaque visite, on voit simplement une infirmière, et lui, il donne ses instructions aux infirmières qui nous les transmettent. Donc, on ne voit jamais le docteur directement, à part quand on demande un rendez-vous avec lui. Et ce qu'on avait fait donc après les 3 échecs, où là, il nous avait reparlé de la FIV, mais j'étais assez entêtée en me disant, mais ce n'est pas possible, tout le monde nous dit que Olivia, elle est en très bonne santé, qu'elle est fertile et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas avec nous? Et donc, c'est pour ça qu'on a insisté avec une 4e insémination. Et puis là, on s'est dit que financièrement, si on faisait encore des inséminations, on n'aurait plus assez après pour faire une FIV vraiment ça ne fonctionnait pas, donc on est passé à la FIV, parce qu'en fait l'insémination, si on compte le coût de la fiole, ça nous coûtait $2,500 chaque essai,
ce qui est énorme.
Au bout d'un moment, fallait dire stop et passer à la FIV, même si la FIV elle est 4 fois plus chère. La FIV, quand on a eu le coût, c'était $15,000 et ça comprend pas les médicaments, et les médicaments c'est entre 4 et $5,000, donc faut compter. Là, ils te proposent de payer en plusieurs fois. Bien sûr, ils sont très gentils, mais...
Évidemment.
C'est pas suffisant des fois, mais bon. On a fait tout ce qu'on a pu pour avoir recours à cette FIV. Mais par contre, la chose qu'après, on savait pas, c'était si cette FIV ne marche pas, comment on fait? Parce que là, on n'a vraiment plus aucune ressource. Donc, on comptait vraiment sur cette FIV.
D'ailleurs, quand on a commencé la FIV, notre premier rendez-vous, c'était aussi avec, ils appellent ça une financial consultation, Donc avec quelqu'un qui va te parler comment tu vas payer, voilà les coûts, voilà comment ça se passe, etc. Donc il y a un rendez-vous avec quelqu'un vraiment spécialisé dans le coût du traitement, quoi.
Oui, qui doit très certainement te faire une proposition de crédit au bout du truc, non ?
Oui, aussi. Surtout que nous, voilà, vraiment, on n'avait rien du tout de couvert et remboursé par l'assurance. Donc, on savait que tout était 100% de notre poche.
Oui, d'accord. Oui, ça dépend des mutuelles, enfin des
assurances. Voilà, c'est ça. Il y en a très, très peu ici qui couvrent les problèmes. Nous aussi, ça s'appelle les problèmes d'infertilité. Mais déjà, si ça couvre, c'est souvent, pas, malheureusement, que pour les couples hétéros.
D'accord. Et alors, cette FIV ?
Alors, donc on commence la FIV en janvier 2017 et juste en parallèle, on était en contact aussi avec des mamans solo ou des couples LGBT ou des couples hétéros qui utilisaient le même donneur et pour qui ça allait marcher du premier coup, pour tout le monde. Parfois des jumeaux, etc.
D'accord. Donc, vraiment, donc plutôt positif.
C'était positif parce que du coup, on disait bon, bah, ça fonctionne bien, c'est pas un problème avec le donneur, etc. Mais d'un autre côté, ça ne nous mettait pas le moral du fait que pour nous, ça ne fonctionnait pas comme les autres, quoi, en fait.
Bah oui.
Donc voilà, il y avait du positif. En même temps, c'était aussi dur à encaisser que pour nous, on devait passer par tout ça et que ça ne fonctionnait pas. Donc,
d'accord.
Donc, voilà, donc la FIV, donc ils nous ont donné le plan de traitement, en fait. Ça s'est déroulé sur 4 mois, entre janvier et avril.
D'accord.
Donc... en fait, je sais pas, je pense que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe, hein, c'est tout un traitement de piqûres, pendant le cycle, ça commence par la prise de la pilule, ensuite on fait des injections, enfin on se les fait nous-mêmes d'ailleurs, on a eu des cours de comment faire des piqûres, donc moi qui déteste ça,
c'est vrai,
c'était atroce, je ne regardais pas, je disais à Camille, regarde bien comment faire, il fallait changer les
produits
nous-mêmes, etc., pour prélever un liquide, mélanger avec un autre... Donc, c'était une vraie science à la maison.
Oui, c'est clair. C'est clair. Tu deviens infirmière.
C'est ça. Ouais. Donc, on a reçu nos médicaments à la maison. On a suivi le protocole qui nous avait été donné par la clinique. Franchement, c'est un vrai, vrai, vrai chamboulement au niveau hormonal. Pour moi, c'était vraiment difficile, quoi. Ça m'a paru intense.
Bah, tu m'étonnes. C'est intense, hein, oui.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, c'était un choc. Niveau hormonal, ça nous fait passer par des... On appelle ça montagne russe, quoi.
Ouais. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Hein. C'est clairement le ressenti, en général, des gens qui passent par les FIV, effectivement.
Ouais.
Et ici, alors, je ne sais pas si c'est pareil en Europe, mais on a contact en ce moment avec une amie qui le fait en Belgique, une FIV. Et on a été hyper surprise parce qu'ils font une stimulation hyper courte pour qu'elle ait environ 6, 7, 8 folliques matures. Et nous,
oui, part,
en fait, nous, c'était pas du tout ça. Nous, ils visaient 20 follicules, enfin follicules, on dit. Ici, on dit folliques, c'est pour ça que je me trompe.
D'accord.
20 follicules, voire plus. Et donc, c'était vraiment un concours de combien il y en a à chaque rendez-vous. Ils les comptaient et mesuraient, ils demandaient d'augmenter les doses quand ils voyaient qu'il n'y en avait pas assez, selon eux. Enfin, nous, on n'avait aucune idée de quel était le nombre normal ou non. Et donc, au final, à la ponction, il y en avait 16. Donc, on était contents, mais eux, ils n'étaient pas hyper... ils disaient pas que c'était un nombre beaucoup, enfin, un nombre élevé, ils disaient que c'était normal. Et en fait...
Et c'est pour ça que ça se fait sur 4 mois, en fait, et pas sur... parce que il me semble qu'en Europe, c'est sur un mois que tu fais la stimulation pour avoir 7 ou 6, 7, 8 follicules.
Alors, ouais, la stimulation, c'était sur 3 semaines à peu près, je crois.
Fait, ici, ça a été long parce que dans cette clinique-là, ils commencent le protocole en te faisant prendre la pilule contraceptive pendant un mois. Alors, on ne sait pas trop pourquoi.
D'accord.
C'était son protocole à lui. Donc déjà, on perd, entre guillemets, un mois. Et après ça, on pouvait commencer le traitement. Oui, là, la stimulation, elle était assez longue. Et après, la ponction. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce docteur-là, il nous a conseillé. Donc, on avait soit l'option de faire un transfert frais, comme ils disent, ou alors un transfert congelé. Et lui, il préférait le transfert congelé, qu'il disait qu'il avait plus de taux de réussite avec cette méthode-là. Donc, après la ponction, ils ont congelé les embryons qui nous restaient et lui ont fait attendre encore un mois et le cycle d'après pour faire le transfert. Donc, c'est pour ça qu'il est allé en tout sur 4 mois.
Le temps que le corps se remette en fait d'aplomb après la stimulation qu'il a reçue.
Ouais, d'accord.
D'ailleurs, il est fréquent de faire ce qu'ils appellent over-simulation. C'est le corps a tellement
réagi. L'hyperstimulation,
ouais. Voilà, que tu dois même à l'hôpital parce que y a trop de liquide dans ton corps, etc. Moi, je me souviens qu'après la ponction, c'était. J'étais achevée, quoi. Je n'en pouvais plus le jour même, j'ai fait que dormir. Ce qui est rarement le cas. Ouais. Mais c'était vraiment très, très intense. Ouais.
Et du coup, sur les 16 embryons, sur les 16 follicules, vous avez conservé combien d'embryons parce que normalement, ils ne sont pas tous viables.
Oui, c'est ça. Donc, sur les 16, ils ont fait. Ils nous ont appelé dès le lendemain. Ils nous ont dit qu'il y avait 10 embryons. Enfin, voilà, il y avait 10 follicules qui étaient fertilisés. Donc, dès le lendemain, donc 10. Et ils nous ont rappelé, je crois que c'était à peu près un ou deux jours après. Je crois que c'était le lendemain. Il y en avait, au final, il y en avait 5 qui étaient de très, très bonne qualité. Ils ont gardé ces 5-là.
D'accord, ok. Et ils ont attendu donc 2 mois pour faire le transfert d'embryon congelé?
Oui, c'est à peu près ça, ouais. 2 mois, parce qu'en fait, le jour du transfert, c'était le 10 avril, donc 2017. Donc, on avait commencé en janvier, on avait le 10 avril. Donc ouais, ils attendaient que le corps se remette d'aplomb, en fait, après tout ce qui s'était passé.
Oui, d'accord. Et donc, quand tu me parles de FIV, en fait, ça comprend le transfert à terme des 5 embryons, on est d'accord. Le coût des 20 000 dollars comprend aussi le transfert des 5 embryons.
Oui, ça comprend le transfert d'un embryon.
Oui, d'un embryon.
Un seul, d'accord. Oui. Ça ne comprend pas jusqu'à...
Non.
Il faut payer à chaque transfert.
Ouais. D'accord. Business is business.
Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout bête, mais quand on nous avait dit le prix, on va dire, de 15 000 dollars de la FIV, ça comprenait, c'était un transfert frais, c'est-à-dire un transfert juste après la ponction. Et en fait, après, le docteur nous dit, moi, je préfère faire un transfert congelé. Donc, nous, on suit l'avis du docteur. Et arrivé donc à ce cycle-là où on est prête à se préparer pour le transfert, on nous dit, la préparation, elle n'est pas inclue dans le prix parce que nous, c'est un transfert frais. Donc, normalement, cette partie-là, elle n'est pas inclue, donc maintenant il faut la repayer. Donc bon, on repaye. Hein. Donc plein de petites
choses. On avait plus le choix, de toute façon, on était très prêts de toute façon à faire l'insémination. Donc pour eux, c'était de couvrir le coût, d'avoir congelé l'embryon et de le décongeler après, de préparer, etc. Plus préparer le corps, il fallait reprendre des médicaments. Enfin, donc voilà.
Ouais, ok. Oui, effectivement, tout. Enfin, c'est vrai que chez nous, ça nous paraît. Enfin... ça ne nous paraît pas être aussi coûteux, ou on n'a pas trop l'impression d'avoir une facture des restaurants où le moindre truc est facturé à la fin. Mais aux États-Unis, ouais, c'est vraiment particulier.
Ouais. Donc après, le jour du transfert, ils nous proposent soit d'en mettre un ou deux. En fait, on avait le choix et on a statué un parce que on s'est dit on aimerait en avoir un pour commencer. mais par contre, c'était tout doux parce que si celui-là il prenait pas, ça allait être vraiment compliqué de refaire un autre transfert. Mais on avait la chance d'avoir encore 4 embryons. Bon, ça veut pas dire que les 4 auraient pu marcher ou non, mais
oui.
Mais donc voilà, on s'est lancé avec un et le transfert a été fait et puis Olivia est restée se reposer toute la journée, comme on nous indique. Même si certains disent on peut faire ce qu'on veut, nous Olivia est restée allongée.
Après tout ce qu'on avait déjà. Ouais. On a mis les choses de notre côté quand même.
Comme on fait tous. Et alors, du coup, comment ça s'est passé pour la suite?
Alors, à côté de ça, en parallèle, juste pour continuer, côté hormonal, ils m'ont continué pendant 3 mois la progestérone intramusculaire, donc encore une super piqûre très
douce. Sympa celle-là.
Ça faisait vraiment mal. Tous les matins, j'ai une petite larme à l'œil quand Camille me la faisait.
Tu m'étonnes.
Pour aider à ce que tout se passe bien, qu'il y ait un embryon qui accroche et qu'il tienne les 3 mois au moins début de grossesse.
Et du coup, ça, c'est Camille aussi qui te faisait ces injections-là. Donc là, c'est des vraies injections.
Ah oui, tout était vraiment de grosses injections.
Pour la stimulation, c'était simplement dans le ventre. Donc, elle pouvait.
Ouais, c'est des stylos.
Voilà, c'est ça. Il y a des stylos et il y a même des vraies piqûres, mais c'était toujours dans le ventre. Donc, je le faisais parce que je ne voulais pas du tout voir ça. Et par contre, avant le transfert, plusieurs semaines avant, ils nous font commencer donc la progestérone intramusculaire. Et là, c'est dans le dos, donc tu peux aussi te la faire toute seule. Il y en a qui arrivent à faire tout seul, mais une aiguille immense et assez épaisse, et il faut l'enfoncer complètement. Donc là, c'était tous les matins à la même heure.
Il faut pas dévier non plus parce que ça, tu peux avoir des risques.
Ouais, en fait, ils te disent de regarder si t'es pas dans un vaisseau, etc. Donc on était les petites
D'accord.
Voilà, et donc après le transfert, Olivia elle a entrepris de faire quelques tests de grossesse en cachette. Et assez tôt, une semaine après, sachant que les embryons, ils avaient 5 jours. Enfin, l'embryon avait 5 jours. Donc, voilà, une semaine après, elle a fait ses tests en cachette. Donc, je la laisse expliquer.
Donc, j'avais fait des tests de toute façon même pour les IUI classiques, mais il y avait toujours une trace d'ovidrel, etc., qui forcément faussait le test.
Ouais.
Bon, je l'ai quand même fait. Forcément, j'étais excitée de savoir si ça avait fonctionné ou pas. Je l'ai fait dans le dos de Camille parce qu'elle me disait, mais ça sert à rien de regarder maintenant, attendons. La prise de sang, donc bon, je l'ai fait, c'était un peu tôt, j'avoue que ça apparaissait négatif, le test. Évidemment, je pleure à nouveau. Je me dis, comment je vais le dire? Est-ce que je dis rien? Est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Le temps que je me morfonde, en fait, il y a une petite marque apparue sur le test, toute fine, légère, ouais, j'ai couru lui montrer, je lui dis, regarde, je crois qu'il y a quelque chose, donc voilà. Super excitée et on a attendu donc la prise de sang à nouveau. Donc je crois que c'était aussi également 2 semaines en fait. Et elle était positive, enfin.
Enfin,
ouais. Ouais. Après quasiment un an de parcours en fait.
Ouais. Et un an de parcours et puis c'était grosse pression liée au côté business hein, du parcours quoi.
Ouais. On avait fait depuis quasiment tous les mois, depuis le mois de juillet.
Ouais,
alors on savait plus, honnêtement, on se disait qu'est-ce qu'on fait parce que c'est, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Quoi. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir remettre de côté. C'est difficile. On fait une étude de Camille à côté en parallèle. C'était vraiment compliqué. Vraiment, il y avait de la pression de tous les côtés pendant tout ce parcours PMA.
Ouais. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas pour nous toutes. C'est clair qu'on n'est pas sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes budgets. Après, c'est tout est une question de niveau de vie aussi entre les États-Unis et la France. Enfin. Mais c'est vrai que le budget, mine de rien, ça met en stand-by des parcours pour soit on arrête. Donc,
c'est vraiment atroce de dire que voilà, ça tient là-dessus, quoi.
Ouais, exactement. Et votre grossesse se passe bien, du coup?
Oui, franchement, très très bien, du début jusqu'à la fin. Bon, un peu difficile au niveau de l'accouchement, c'est une autre histoire, mais. Mais non, tout s'est très très bien passé. On n'a jamais eu la sensation, encore une fois, d'être mis à part du fait d'être des parents homo, en fait. Hein. Mm-hmm. On a toujours été bien accueillis, il n'y a jamais de différence.
C'est vrai que c'est plutôt très confortable.
Oui, franchement, énormément. Je me dis qu'on a eu de la chance par rapport à ça. Je veux dire, pour plein de gens, ça a été leur première fois d'accueillir un couple de mamans, pour l'accompagner pendant la grossesse, etc. Mais ça n'a jamais été un problème, quoi. Jamais ils l'ont montré, en tout cas.
D'accord, malgré l'ouverture qui est plus ancienne hein, que sur les pays... habituel ici, vous restiez un des premiers couples qu'ils aient vu passer.
Pour certaines infirmières, jusqu'à l'hôpital, c'est...
D'accord.
Elles ont été surprises, mais pas non plus. C'était pas un problème, quoi. Je veux dire, c'était.
Oui.
C'était pas compliqué, quoi, d'avoir leur premier couple.
Ouais. Et comment ça se passe un suivi de grossesse aux États-Unis?
Je pense que c'est similaire à la France. On a peut-être un peu plus de rendez-vous. Et on est suivi jusqu'aux 3 mois, je crois que c'est ça, hein, pour ma grossesse, par notre.
Deux mois.
Par la clinique par laquelle on est passé, donc pour la PMA. Ils nous suivent, ils voient que la grossesse est bien engagée, que ça se passe bien. C'est pareil pour tous les couples. Avant d'aller voir un gynécologue classique, on est suivi pendant 2 mois par eux.
À 10 semaines, si tout va bien, ils nous relâchent avec une lettre pour aller voir notre gynécologue. Avec une petite lettre.
La liberté.
Et en fait, ils font la première échographie à 6 semaines. Donc, 6 semaines depuis le début des règles, soi-disant. Il n'y a pas eu de règles à ce cycle-là. Donc, ils font la première échographie. Après, il y en a une toutes les semaines jusqu'à 10 semaines. Et ensuite, à 10 semaines, ils nous laissent au gynécologue. Et là, après, c'est une grossesse normale. Donc, il y a 3 échographies durant la grossesse, une par trimestre et des rendez-vous mensuels, je dirais, jusqu'aux 2 derniers mois où ça devient toutes les 2 semaines.
Ouais, jusqu'à toutes les semaines après.
Voilà, toutes les semaines.
D'accord. Oui, donc le suivi a l'air d'être quand même un peu plus resserré, on va dire.
Ouais, le fait qu'on ait aussi un parcours donc PMA, notre gynécologue a préféré nous suivre un peu de plus près, quoi, tout simplement.
Mmh, d'accord, ok. Et vous avez dû faire des démarches parce que, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, vous avez la possibilité de reconnaître toutes les deux l'enfant avant l'arrivée.
Alors oui, en fait, à l'hôpital, c'est très, moi, je trouve ça très particulier. Donc, elle a accouché et tout plein de personnes nous rendent visite, dont la personne qui nous demande de compléter l'acte de naissance. Et en fait, là, on met vraiment ce qu'on veut. Donc, on complète. Ils ne nous demandent même pas de pièce d'identité. Ils ne nous demandent pas si on est marié. Ils ne nous demandent rien. Donc on peut se mettre comme parents. Il y a une catégorie mère / parent et une catégorie en dessous père / parent. Donc, en fait, on apparaît tous les deux comme parents et on apparaît tous les deux sur l'acte de naissance. Après, il y a un autre souci ici, c'est que même si on est toutes les deux sur l'acte de naissance, ça ne donne pas légalement à moi, le deuxième parent, pas biologique, les mêmes droits qu'Olivia A, qui est la mère. Mm-hmm. Donc, on nous avait conseillé déjà dès cette première conférence de faire une adoption en Floride pour qu'on ait toutes les deux les mêmes droits et qu'on ait aucun problème si on venait à changer d'état ou si on se retrouverait un jour face à des juges non LGBT qui pourraient juger en défaveur, on va dire, de ce certificat de naissance, malgré qu'on soit toutes les deux dessus.
D'accord. Oui, ouais, tout à fait. J'avais entendu parler de ça. C'est très particulier comme mode de fonctionnement. Ouais. Mais bon.
Bon, ça, on savait. En fait, le problème encore, c'est que c'était encore coûteux à faire ces démarches. Mais on avait enfin notre enfant. Donc, on va dire que ça passe un peu au deuxième plan. On a un peu mis ça de côté parce que on avait eu l'enfant dont on rêvait. Et on savait, au fond de nous, qu'il est à nous deux et qu'on ne fait pas de différence.
Mais, oui, et puis vous aviez quand même cette acte de naissance qui était rassurant.
Oui, voilà. Et après, on nous dit vraiment, c'est en cas de problème majeur, on va dire en cas de décès d'Olivia, où là, je serais embêtée de ne pas avoir adopté Evan. Donc, Evan qui est né en décembre 2017.
D'accord, ok. Et vous pouvez, donc on n'a même pas parlé de l'arrivée d'Evan encore, mais vous pouviez du coup enclencher l'adoption d'Evan dès la naissance d'Evan ou vous aviez un délai?
On peut déjà même préparer le dossier à peu près 2-3 mois avant la naissance. Et ensuite, ils attendent évidemment la naissance de l'enfant pour finaliser. Mais effectivement, on peut le faire dès son arrivée. On aurait très bien pu tout finaliser. Ça se fait assez rapidement. Je crois que c'est à peu près 2 mois, je crois, pour avoir un jugement, en fait. Hein. C'est assez...
D'accord. Ah oui, c'est rapide.
Le fait qu'on soit marié, ça simplifie complètement la démarche ici. C'est plus compliqué pour les couples non mariés. Mais pour
D'accord, mais mariés, c'est possible pour les couples non mariés.
Oui, c'est aussi possible pour les couples non mariés. D'accord. Mais ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils ont en fait une étude de leur couple. Ils doivent prouver qu'ils sont en couple, ils doivent prouver qu'ils habitent dans la même maison. Donc, ils ont carrément quelqu'un qui vient vérifier qu'ils habitent bien sous le même toit. Donc, il y a une inspection de la maison et que l'enfant est aussi habite avec eux. Et nous, on n'a pas besoin de passer par là parce qu'on est mariés. Donc, on évite toutes ces étapes. Et ce qui fait que le processus est assez court et assez simple. Donc, normalement, sans encombre, on n'aura pas de problème à le faire parce qu'on ne l'a toujours pas fait.
Aussi, ce qui nous a poussé à retarder par la suite, c'est en se renseignant, en allant revoir l'avocate, elle nous a dit qu'elle a compris qu'on voulait avoir d'autres enfants. Elle a dit que c'était aussi bien de le faire quand en fait, la famille est au complet. Donc, on s'est dit, sauvons un peu d'argent et attendons.
Elle nous a expliqué que si on avait d'autres enfants, ça serait quand même la même procédure. On pouvait faire une procédure globale et non une procédure par enfant. Donc, comme on était prête à commencer le deuxième enfant pas longtemps après.
C'est vrai.
Du coup, on a attendu.
Ouais, on savait qu'on voulait des enfants plutôt rapprochés en avant. En fait, c'est passer par ce parcours PMA et en finir, quoi.
Ouais, mais en même temps, 3 enfants en 3 ans, 2 ans presque, ouais. C'est intense, hein, effectivement.
Ouais, en fait, on voulait plus ou moins 2 ans d'écart. Bon, c'est un chiffre juste comme ça, mais pour dire, au 1 an d'Evan, moi, de mon côté, on s'est mis d'accord et j'ai commencé, du coup, les démarches. Du coup, c'était cette fois à moi de porter l'enfant. On s'était mis d'accord, chacun son tour. Et donc, au 1 an d'Evan, j'ai commencé les démarches, donc reprise de rendez-vous à la clinique et démarré tous les tests. Donc, on a été en fait dans le même groupe de clinique, mais à une autre location, parce qu'on avait déménagé, mais pour dire qu'il y en a vraiment, on va dire, partout.
À plusieurs endroits, oui.
On a été au plus près de chez nous, c'était le même groupe, la même clinique, mais à un autre endroit. Donc un autre.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais le droit de bénéficier du transfert des embryons d'Olivia ou pas ?
Oui, j'aurais absolument pu le faire, mais c'était pas ce qu'on voulait faire pour l'instant. On voulait chacune faire l'insémination, on va dire, normale, faire avec nos propres follicules.
Déjà, ça aurait été cool, tout simplement de refaire voilà, une FIV sur Camille, même avec mes embryons qui étaient déjà là, etc. C'était plus coûteux que de faire une insémination classique.
D'accord, parce qu'elle ne te refacturait pas le transfert et il recommençait presque tout, en fait, au final.
Si, oui, en fait, il refacture le transfert, mais ils sont pas bêtes, en fait. Ils te donnent un devis où juste le transfert, ça coûte autour de 7 000 $. Alors, il n'y a pas besoin de faire de ponction, il n'y a pas besoin de faire de stimulation ovarienne, donc c'est très spécial. Mais ils savent que, bah, comme ils ont fait énormément d'embryons pour la plupart des gens, nous, on en avait 5, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est suffisant. Ouais. Et ben, du coup, ils s'assurent que le transfert va être quand même coûteux pour pas qu'ils perdent de l'argent non plus de leur côté.
Oui, bien sûr.
Pour chaque transfert.
D'accord. Et du coup, donc toi, tu repars dans tout le même processus où tu refais tous les examens. Ben, forcément, voilà, tu les refais pas, tu les fais puisque tu les as jamais fait.
Exactement, je l'ai fait. Donc, bon, bah, pour le coup, on était un peu plus préparés. On avait un nouveau docteur avec qui, personnellement, je l'ai pas extrêmement approché. Mais bon, comme on savait à quoi s'attendre, on est resté avec lui. On était contents en cette clinique, donc après c'était juste le docteur. Je pouvais changer de docteur dans la même clinique, mais bon, j'ai décidé de le garder. J'ai fait tous les tests génétiques, etc., tout ce qu'il faut. Donc cette fois, on a bien fait les stéro-salpinographies dès le début, qui n'a pas du tout été douloureuse pour moi, contrairement à Olivia. J'avais aucun problème en vue. Et puis, j'ai commencé le premier cycle au mois de mars 2019.
D'accord, oui.
Donc, mars 2019, premier cycle, on commence comme avec Olivia, médicamenté, donc avec Femara, où j'ai un follicule mature, l'insémination et un résultat négatif.
Donc, et c'est reparti,
ouais. On sait que ça marche pas du premier coup, on est déjà passé par là, et donc on tient bon, et donc on continue le cycle d'après, parce qu'on peut enchaîner les cycles. Donc, le mois d'avril, on refait un cycle, Femara, un follicule et de nouveau négatif.
Aïe.
Et donc, bon, là, on se vient toujours à se poser des questions. Bon, tout le monde passe par là. Est-ce que c'est notre faute? C'est pas de notre faute. Donc, bon, on continue. Troisième cycle. Et là, je demande au docteur d'augmenter la dose parce que je sais qu'Olivia, elle avait déjà eu 2 follicules et que ça n'avait pas marché et qu'il y en a beaucoup de follicules et ça ne marche quand même pas. Et donc, je lui dis, je veux augmenter la dose parce que je pense que ce sera notre dernière insémination. Donc, je veux augmenter mes chances. Et donc, ils ont été d'accord, mais ils m'ont dit, si t'as plus de 3 follicules, on fait pas d'insémination. Donc, pas de problème de mon côté. Moi, j'en voulais plus 2, donc 3, c'est beaucoup. Mais bon, donc, on a fait la stimulation. Et donc, j'ai eu 2 follicules matures, un à droite et un à gauche. Donc, tout le monde est content. On a fait l'insémination. Et cette fois-là, j'ai pas fait de test de grossesse à la maison parce que j'avais fait les deux premières fois les tests de grossesse qui avaient été négatifs. Donc, je les avais fait la veille de la prise de sang. Bon, c'est toujours un peu, on va dire, décevant. Et on toujours, la prise de sang, c'est demain. Donc, peut-être il y a toujours un espoir que la prise de sang, elle soit positive. Parce que, bon, on lit de tout ici. Il y a beaucoup de forums qu'on peut regarder. Il y a même des groupes Facebook spécialement pour la reproduction, les UI, la FIV, etc. Et tout le monde partage ses expériences. Et il y en a plein qui te disent, j'avais un test de grossesse négatif et pourtant ma prise de sang était positive. Enfin bon. Du coup, on se raccroche vraiment à tout ce qu'on lit.
Tous les espoirs, oui.
Donc bon, j'avais fait les 2 tests de grossesse pour mes 2 premières inséminations qui étaient négatives et donc prise de sang négative. Et là, cette fois-ci, j'ai dit, je fais pas de test de grossesse et j'attends la prise de sang. Donc ce que j'avais fait et là, résultat de la prise de sang positive, et on me dit 64, le chiffre 64, donc elle me dit c'est pas beaucoup, on te confirme pas que c'est une grossesse qui va aboutir, mais c'est positif, donc on recommence une prise de sang dans 2 jours, voir si ça double, parce que c'est ce qui importe, quoi. Donc bon, c'est ce qu'on a fait, les prises de sang, et tout a fonctionné normalement, les chiffres ont bien doublé, et donc c'est resté positif, et donc, semaine 6, on va à l'échographie qu'on attendait tant, comme on avait fait pour être vraiment soulagée, parce qu'ils te disent jusque-là, s'il n'y a pas de cœur, etc., ça peut toujours ne pas aboutir, parce que c'est toujours tôt. Donc, là, à l'échographie, Le médecin me dit tout va bien. Je sais pas qu'on appelle ça. Il y a un sac, en fait, si ça s'appelle ça un sac. Il y a mm-hmm. un sac avec un cœur. Donc regarde, tout va bien, c'est bon. Et au moment où il allait me dire, bon bah tu peux te rhabiller, et il bouge un petit peu et fait ah attends, je vois autre chose. Je crois qu'il y en a un deuxième. Et en fait derrière caché, il y avait un deuxième sac et un deuxième sac de la tête. Et donc là, Olivia, elle était à deux doigts de s'évanouir. Je pense que tu sais ce que c'est. Encore plus.
Oui, je vois bien.
Mais c'était voilà le stock. Et Olivia, elle me fait, tu peux pas me faire ça. Je dis, mais je n'ai pas fait exprès.
Ce n'est pas moi.
Ouais, j'étais vraiment choquée. Je ne m'attendais tellement pas, vraiment vraiment.
Ouais, vous y attendiez pas du tout.
Non, on s'y attendait pas parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui ont deux, des fois trois follicules et malgré tout, ça ne marche pas ou alors elles en ont vraiment que un. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'on ait des jumeaux avec deux follicules. Et en fait, je sais pas si eux, là-bas, à la clinique, ils sont habitués à ce genre de nouvelles, mais en fait, ils ont tourné ça d'une manière où on n'avait même pas le temps de penser. Et quand ils ont vu qu'il y en avait deux, l'infirmière, elle était excitée, elle nous disait, félicitations, c'est génial et tout, ouais. Tu vas pouvoir acheter un minivan, etc. Et
on pense pas déjà. Ils t'emballent le truc.
Ils te laissent pas le temps de t'en remettre, et de dire, comment je vais faire. Ils sont là super excités, ils disaient, le docteur, il pourra être, tu pourras demander, comment il appelle ça? Tu peux demander une pension au docteur, matin, etc., etc.
Ouais, tout de suite, l'infirmière a attrapé mon téléphone, filme ça, c'est génial. On n'avait vraiment pas le temps de penser, j'étais vraiment, moi, complètement bouche bée, je savais plus quoi penser, en fait.
Ouais, tu m'étonnes.
C'était pareil pour toi, ouais. Le choc.
Ouais, c'est oui. C'est-à-dire que moi, je partais avec deux follicules et qu'il y en avait trois. Pour moi, c'était complètement possible.
C'est ça. Ouais. Donc là, le choc encore plus, j'imagine.
Oui, je ne sais pas si on peut mettre un degré, mais je pense que des jumeaux, tu peux l'envisager. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans l'idée où c'était possible qu'il y ait des jumeaux. J'avais un très gros taux. Moi, j'étais à 217, je crois.
Ah, oui.
Donc, un truc énorme. Donc, de suite, on s'est dit, il y a un risque, quoi.
Ouais.
Mais tu n'envisages jamais des triplés.
Non, c'est sûr.
C'est sûr, non, c'est clair.
Donc, voilà.
Donc voilà les jumeaux. Donc j'ai été suivie pareil jusqu'à 10 semaines. Donc on se disait tout le temps, faut faire attention, c'est des jumeaux, il peut toujours y en a un qui peut partir, etc. Et en fait, tout s'est très bien passé. Si ce n'a été que j'étais hyper malade en fait les trois premiers mois.
Oui. C'est multiplié, hein, clairement.
Ouais. Alors qu'Olivia, elle avait eu aucune nausée, elle avait vraiment eu aucun symptôme pendant toute la grossesse. Elle s'est sentie hyper bien. Et moi, les trois premiers mois, mais j'étais vraiment nausée toute la journée du matin au soir. Ouais. J'arrivais plus à m'alimenter correctement, que mon gynéco, il me détestait, il me menaçait que si je prenais pas de poids, je pouvais pas partir en vacances en France, parce que du coup, on avait pris des vacances dernière minute en France, parce qu'on savait que ce serait plus ou moins la dernière fois qu'on pourrait y aller. Mm-hmm. Donc, quand j'étais à trois mois de grossesse. Et donc, il m'avait menacé de, si je prenais pas de poids, de pas partir. Alors, j'essayais de manger tant bien que mal. Et après ces trois mois et demi, j'ai retrouvé une vie normale. Les nausées sont passées et la grossesse s'est très bien passée jusqu'à la fin. Et pour des jumeaux, on est beaucoup suivis. Alors, sûrement en France, c'est aussi intensifié.
Oui, tout à fait.
Donc, j'avais un rendez-vous chez mon gynécologue normal toutes les deux semaines. Et j'avais aussi un rendez-vous chez un gynécologue spécialisé en grossesse à risque toutes les deux semaines. Et donc j'avais le double de suivi. Et donc, on m'avait dit qu'on me déclencherait à 38 semaines si je n'avais pas accouché avant ce terme. Mmh. Et mon gynécologue normal, ça c'était le gynécologue spécialisé qui m'avait dit ça, et mon gynécologue normal m'avait dit déjà si tu arrives à 36 semaines, c'est déjà pas mal.
Donc, ouais, c'est vrai.
Je m'étais fixée 36 semaines et jusqu'au jour en fait où c'est assez spécial ici, ils prévoient les césariennes, donc tu donnes une date en fait de césarienne. Donc autour du mois de décembre, mon terme c'était le 17 février et 38 semaines du coup ça tombait vers le 3 février. Et donc au mois de décembre, ils me prévoient ma césarienne le 3 février à midi. J'avais l'option d'accoucher naturellement si les deux avaient la tête en bas, mais si les deux n'avaient pas la tête en bas, c'était pas possible. Donc, au moins, j'étais prévenue. Et donc, je continue les rendez-vous. Et les deux derniers mois, par contre, j'avais des rendez-vous toutes les semaines. Donc, j'étais vraiment bien suivie. Ouais, j'étais vraiment bien, bien suivie. Et il s'est arrivé qu'à la semaine 36, j'ai un rendez-vous, donc une échographie. J'avais des échographies toutes les semaines. Donc l'échographie, très bien. Il y avait un qui avait la tête en bas. Donc j'avais une fille et un garçon. Donc ça, j'étais hyper heureuse parce que bon, on avait déjà un petit garçon, donc on souhaitait une fille et puis bon, bah, c'était parfait, une fille, un garçon, on ne pouvait pas demander mieux. Donc on nous disait que le garçon, il avait la tête en haut et la fille la tête en bas. Et je sors de ce rendez-vous et on me dit, bah, il faut quand même prendre ta tension comme à chaque rendez-vous. Et là, ils prennent ma tension et j'avais 15-9 de tension. Et mais tu te sens bien, tout va bien. Je dis oui, je me sens très bien, quoi, tout va bien. Et donc le médecin me voit et me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite et qu'on vérifie ta tension. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais à l'hôpital tout de suite et ma tension n'a pas baissé. Donc dans la soirée, ils m'ont fait la césarienne. Donc c'était hyper rapide comparé à Olivia. L'accouchement était très laborieux. Moi, ça passait très bien et très vite. J'ai même pas eu le temps de réaliser, quoi.
Bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que la césarienne, c'est le côté étrange de la chose, c'est que ça va très vite et que tu ne ressens pas grand-chose au final. C'est, pas... c'est après ou c'est plus intense.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, Olivia aussi est passée par la césarienne, donc je savais aussi plus. Enfin, j'avais vu par quoi elle était passée, donc je m'attendais un peu à l'après. Mais pour moi, l'accouchement s'est très bien passé, très rapide et après l'hôpital, tout s'est bien passé.
Ouais, ils prennent vraiment pas de risque, hein, parce que je suppose que ce qui, enfin, ils avaient peur de la. Ah, je trouve pas mon mot, mais...
Attention,
Ouais, c'est un nom...
Et si c'est pré-éclampsie,
Ouais, la pré-éclampsie, ouais, c'est ça, pardon. Ouais, donc ils avaient peur de la pré-éclampsie, et je crois qu'en France, enfin, je m'avance peut-être, mais à 15, ils déclenchent pas tout de suite, en fait. Je pense qu'ils attendent de voir si ça continue à monter ou pas, mais peut-être que je m'avance. Hein.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, bon, j'avais jamais eu de tension, j'avais eu un rendez-vous deux jours avant où j'avais pas de tension, et ce jour-là, j'en avais, donc à l'hôpital, ils m'ont surveillé et la tension elle baissait pas et même ils m'ont fait changer de chambre parce qu'ils m'ont dit bah maintenant tu restes là 24 heures si ça va mieux au bout de 24 heures tu reviens dans 3 jours parce que dans 3 jours tu seras à 37 semaines et donc là on t'accouchera à 37 semaines ils préfèrent que j'arrive à 37 semaines et ils m'ont dit la condition qu'on te fasse accoucher maintenant c'est si ta tension continue d'augmenter et ce qui s'est passé c'est que le soir j'ai eu des contractions mais ça faisait déjà 2 mois en fait que j'avais des contractions tous les soirs. Et je leur disais que j'avais des contractions tous les soirs depuis 2 mois, donc c'était pas anormal. Et pour eux, en fait, ça a été le déclencheur de dire, bon, bah, on fait la césarienne, parce que si vous avez des contractions maintenant, ça sert à rien qu'on attende. Tu vas peut-être accoucher naturellement maintenant, donc qu'on te fasse la césarienne. Donc, même si ma tension, elle avait pas explosé, bon, elle était autour de 16, des fois, elle allait à 17, parce qu'ils venaient fréquemment me voir. Et quand ils ont vu que j'avais des contractions qui s'arrêtaient pas, ben ils ont décidé de faire la césarienne. Et d'ailleurs c'était assez, enfin marrant et pas marrant en même temps, parce qu'il y avait Olivia qui était toute seule avec donc notre 2 ans à la maison. Et quand pour dire faut absolument que tu viennes faire la césarienne, on n'avait personne pour garder notre enfant.
Ah oui, vous aviez pas anticipé. Ben oui.
Il était 22 heures.
Ouais, il était 22 heures. Bon, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mes parents, enfin ma maman et mon beau-père étaient venus pour l'occasion parce qu'ils savaient que donc je devais accoucher dans pas longtemps. Sauf qu'évidemment, ce soir-là, ils étaient un spectacle auquel qu'on leur avait offert. Donc, c'était bien.
Ah, mais oui, mais en même temps, vous mettez des bâtons dans les roues.
Donc, c'était un peu bête. Bon, ma mère, elle m'en veut toujours, hein, pour ça. Mais bon, finalement, on est arrivé à temps. De toute façon, c'était une césarienne. Donc, elle aurait pas pu être là. Elle était dans l'attente quand c'est arrivé. Puis, tout s'est bien passé. Et Olivia a pu être là aussi. J'arrêtais pas de leur dire, mais vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme. J'étais pressée. Je dis, mais maintenant, on est plus à une heure près. On peut attendre. Donc voilà, donc elle arrive à temps et tout s'est très bien passé.
Oui, encore une fois, ils ont été vraiment, ils ont fait aucune différence sur le fait qu'on soit un couple de mamans. Ils m'ont vraiment intégrée à l'accouchement, même si c'était par césarienne. Ils m'ont pris sous tous les angles en photo avec les enfants. Enfin, c'était vraiment super.
Ah, c'est génial, c'est génial. Et donc tu disais tout à l'heure que vous n'aviez pas encore lancé les démarches pour l'adoption. Est-ce que maintenant vous les avez lancées?
Alors on est toujours, enfin. On a pris contact, on sait par quels avocats on veut passer. On les a toujours pas officiellement commencé.
En fait, ce qui se passe, c'est que bon, on a repris contact donc avec notre avocate ici. Entre temps, on a dû chercher un avocat en France parce que on veut aussi que l'adoption elle soit valable en France parce qu'on est quand même française de base.
Et oui, voilà.
Et donc, on a trouvé un avocat en France qui connaît notre avocate aux États-Unis et ça permet de faciliter les démarches. Mais ces deux avocats sont assez chers. Donc, je ne sais pas si c'est le prix moyen d'un avocat. Mais encore une fois, bon, le côté financier revient.
Ouais.
Donc, on a commencé. En fait, on doit faire une adoption aux États-Unis et en France. Donc, l'avocat français nous a dit qu'il pouvait faire une transcription de l'adoption qui a été faite aux États-Unis. Donc pour les trois enfants, mais que ça coûte quand même 5000 euros en France et 3 500 $ aux États-Unis. Bon, c'est...
Waouh.
En France, apparemment, c'est plafonné, donc ils comptent plus après le nombre d'enfants.
Pour cet avocat-là.
Oui, pour cet avocat. Mais oui, c'est un coût dans les deux pays, donc et c'est mieux de les faire assez rapprochés. Voilà, parce que pour la validité des papiers, etc., ils nous ont dit tous les deux que c'était mieux de faire les deux adoptions de façon, enfin, la transcription et l'adoption de façon rapprochée. Donc, forcément, le coût, surtout dans ces périodes un peu difficiles, voilà, il faut prévoir.
Bah, clairement, clairement. Et donc, maintenant, ça fait donc 6 mois que sont arrivés vos jumeaux. Ça fait donc 6 mois que vous êtes au complet, ou pas encore, peut-être?
Alors, pour moi, oui.
pour l'instant, oui.
Pour moi, non, complet. Pour Olivia, c'est pas sûr. C'est moins sûr. Un quatrième, elle serait pas contre, mais pas tout de suite.
Non, pas tout de suite.
Pas du tout dans la future. Non,
je pense que, honnêtement, la vie ici, le coût de la vie est quand même assez conséquent. On n'a pas d'aide, etc., étant française en plus, enfin, je veux dire, dans notre pays, je vois ça difficilement financièrement possible. Mais si c'était le cas, si on avait les moyens, je n'aurais pas dit non à quatrième.
Si on gagnait au loto, en fait.
Ouais, voilà. Ouais. Puis bon, il faut penser, mine de rien, aux États-Unis, ça, quand même, enfin, il faut penser aux études des enfants.
Oui,
exactement. Et clairement...
Moi, ça tombe en même temps. Et puis finalement, ils ont que 2 ans d'écart, donc ça va faire beaucoup d'études en même temps.
Ouais, clairement, là, vous êtes partis pour, ça va être sympa, les études.
Ouais. Exactement.
Pour l'instant, on est bien au complet.
Ouais, donc voilà, pour l'instant, vous êtes bien au complet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Beaucoup, ouais, de bonheur dans cette famille, continuer à réaliser notre rêve qui est de rester ici. Je pense qu'on est déjà bien heureuses avec notre petit bout.
Ouais. Du coup, ils ont bien la double nationalité, c'est ça? Ils vont la garder jusqu'à leur 18 ans ou ils l'ont à vie, cette double nationalité?
En fait, ils l'auront à vie. Bon, pour l'instant, officiellement, ils sont que américains, parce qu'ils sont nés. Et en fait, ils auront la nationalité française quand on aura fait cette histoire d'adoption, où on peut déjà, en fait, faire l'état civil. Mais c'est quelque chose qu'on a choisi de pas faire pour l'instant, parce que si on les déclarait à l'état civil, seule la mère biologique serait sur l'acte de naissance français.
Oui.
Donc, on aurait un autre livret de famille, donc on aurait 3 livrets de famille, parce qu'on a chacune, donc, des enfants biologiques. Et après l'adoption qu'on aura faite en France, on aura un quatrième livret de famille et des nouveaux actes de naissance, etc. Donc on s'est dit, on veut s'éviter des procédures pour rien pour l'instant, et on attend l'adoption pour qu'il soit français. Mais là, comme nous a dit l'avocat, ils sont automatiquement français, parce que nous, on est françaises.
Oui, voilà.
Pour français. Bon, on leur a pas fait officiellement le passeport, etc., ni l'état civil. On pourrait le faire, mais on l'a pas encore fait. Mais c'est bien quelque chose qu'ils gardent toute leur vie.
D'accord. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite que vous puissiez continuer à réaliser votre rêve, que vos petits Américains puissent devenir, deviennent français, et surtout que vous puissiez mettre en place votre procédure d'adoption aux États-Unis comme en France, sans trop de difficultés et sans trop de surcoûts non plus, puisque, bon, enfin, clairement, là, vous avez déjà quand même engagé un très, très gros budget pour pouvoir avoir vos enfants.
Oui.
Moi, je vous suis à titre personnel, non pas à titre, enfin pas sur le compte du podcast, enfin si, très certainement avec le compte du podcast, mais je vous suis surtout à titre personnel depuis très longtemps, je crois. Je sais même pas identifier quand est-ce que j'ai commencé à vous suivre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, votre famille, comme beaucoup de celles que j'interviewe, hein, mais votre famille est une très belle famille. Le côté vie aux États-Unis, enfin en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Je trouve que c'est génial de passer à l'acte et en plus élever des enfants dans un autre pays, dans une autre culture, je trouve ça tellement enrichissant. Enfin, je pense que voilà, vous avez de beaux jours devant vous.
Merci Constance.
Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, encore une fois, d'avoir réussi à vous libérer, parce que c'est pas simple quand on a 3 enfants de moins de 3 ans, soyons clairs.
Oui.
J'espère qu'on entendra à nouveau parler de vous, notamment pour cette fameuse procédure d'adoption assez rapidement.
Avec plaisir.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Je vous en prie, à très bientôt.
Bye, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcasts, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire. Et ainsi, nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Olivia et Camille. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis au jeudi 15 octobre pour un épisode hors série du podcast Les Enfants Vont Bien.
Josephine, I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.